Vous êtes sur RTL.
RTL Midi,
Antoine Cavallero.
Bonjour à toutes et tous, vous êtes sur RTL, vous avez fait le bon choix. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec à la une ce drame à Pontoise. L'émotion et surtout la colère, deux enfants fauchés par une moto en plein rodéo urbain. Julie Bro pour RTL a pu rencontrer le père de la fillette. Elle est entre la vie et la mort. Et forcément, les questions qui se posent, comment éviter que de tels drames se reproduisent? Comment lutter contre les rodéos? Nous sommes avec la députée du Val d'Oise. Dans l'actualité également, une nouvelle vague de chaleur en approche. Vigilance maximale pour les incendies, pour les pompiers. L'escalade au Proche-Orient, au moins 31 morts côté palestinien. Des tirs de roquettes ont visé Jérusalem ce matin, ce qui est très rare. Nous sommes sur place. Et puis le football, le grand retour d'Auxerre en Ligue 1, c'est cet après-midi à Lille. Nous y sommes aussi. Un peu après midi 45, nous appellerons Vincent Serrano. Notre reporter vient de passer une semaine à la montagne, à vos côtés, vous les vacanciers, les randonneurs, les amateurs de température fraîche. L'air de la montagne que vous aimez tant, Valérie Quintin, bonjour.
Bonjour.
Le thermomètre repart malheureusement à la hausse.
Oui, pour le coup, on serait vraiment mieux en hauteur. Alors c'est vrai que ça monte assez doucement quand même sur la moitié nord. On est quand même resté en dessous des 30 degrés pour cet après-midi. On va avoir du soleil sur tout le territoire. Quelques orages en montagne, entre le Jura, les Alpes, la montagne Corse et les Pyrénées. Orages qui pourront être d'ailleurs assez forts en soirée sur les Alpes du Sud ou encore sur les Pyrénées. Pour tous les autres, du soleil. Ce petit vent de nord-est qui permet aux températures de rester sous la barre des 30 degrés quand même sur la moitié nord, avec 28 degrés attendus à Nancy et Paris, comptez 30 degrés à La Rochelle, 31 à Mâcon, 34 degrés à Agen, 36 à Cahors et un maximum de 37 degrés encore à Nîmes.
Merci Valérie. Bernard Lehu avec nous également, bonjour.
Bonjour.
À 12h50, notre rendez-vous de l'été avec Chemin d'écrivain, et nous allons grimper aujourd'hui.
Oui, puisque Jean-Christophe Ruffin va nous emmener dans le massif du Mont Blanc au bord de la mer de glace. À tout à l'heure avec vos chaussures d'escalade et vos piolets.
Eh ben décidément, à RTL Midi, très randonnée, le sac à dos est prêt, c'est parti. L'émotion à Pontoise, deux enfants grièvement blessés, percutés par une moto en plein rodéo urbain, c'était vendredi soir. Une petite fille de 7 ans se trouve dans le coma. Julie Bro, vous avez pu rencontrer son père ce matin.
Oui, au cinquième étage d'une tour d'immeuble, les mains tremblantes, le papa de la jeune victime m'a ouvert sa porte. Un monsieur d'une quarantaine d'années, trop ému pour parler au micro. Ce matin, il a passé 2 heures au commissariat de Pontoise pour faire sa déposition et porter plainte contre le conducteur de la motocross qui a renversé sa petite fille de 7 ans. Vous le disiez, elle est toujours dans le coma à l'hôpital. Ce midi, toute sa famille est encore sous le choc. Son papa, lui, est surtout en colère. Ça arrive tout le temps ici. Aujourd'hui, c'est ma fille qui en paie le prix, m'a-t-il dit. Selon ses mots, ce n'est pas la première fois que des enfants sont blessés au cours de rodéo urbain dans le quartier. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Voilà une phrase qu'il a martelée à plusieurs reprises.
Julie Bro à Pontoise, en direct de Pontoise pour RTL. On le précise, un jeune homme de 18 ans a reconnu les faits. Il a été placé en garde à vue. Et nous sommes en ligne avec Émilie Chandler, députée LREM du Val d'Oise. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de l'entendre dans le récit de notre journaliste, ce père en colère. Vous qui êtes élue de la circonscription de Pontoise, on imagine que l'émotion est immense après ce drame.
Alors l'émotion est immense. C'est un quartier endeuillé et en colère. Et c'est maintenant le temps de la justice qui va devoir s'ouvrir, parce qu'effectivement c'est une question de sécurité du quotidien, une priorité du gouvernement depuis 2018. Et aujourd'hui on n'a pas de loi contre la bêtise et l'inconscience, ce qui met en colère les habitants.
Oui, justement, à cette colère, donc après ce drame provoqué par un rodéo urbain, on le sait, c'est un fléau pour les quartiers concernés. Comment on peut lutter ?
Alors, au sein du département, on a une politique active pour lutter contre les rodéos urbains. On a 534 interventions en zone police depuis le mois d'avril. Donc, ces interventions de police se font sur appel citoyen ou directement par des interventions de police ciblées. La police et la gendarmerie se mobilisent tous les week-ends dans le département du Val-d'Oise. On a depuis avril déjà 40 personnes mises en cause et des véhicules saisis. Donc il y a une intervention vraiment systématique des condamnations et des saisies judiciaires. Après, elle se pose deux sujets, celui de la prévention.
Et de la répression.
Celui de la répression, oui, tout à fait. La prévention, c'est la loi d'août 2018 qui permet quand même de sensibiliser dans les écoles, de prononcer des travaux d'intérêt général pour que les condamnés puissent aller faire des visites en centre de réadaptation pour voir la gravité des blessures qu'ils occasionnent, et puis de la répression avec des sanctions lourdes et des peines effectives, et également un déploiement de dispositifs de surveillance par caméra dans certains quartiers, des actions de terrain de plus en plus importantes.
Émilie Chandler, députée LREM du Val-d'Oise, merci d'avoir répondu aux questions de RTL Midi. La vive émotion à Pontoise après ce drame, ces deux enfants fauchés par une moto, le fléau des rodéos urbains. Merci à vous. Un été rejoignant aux quatre coins du pays, des forêts s'embrasent, des prairies réduites en cendres. Dans le Morbihan, les feux sont enfin fixés, ils ont ravagé 75 hectares depuis hier. En Isère, un incendie a brûlé 50 hectares à Voreppe, c'est à côté de Grenoble, des bâtiments menacés, 120 pompiers mobilisés. Le colonel Bertrand Cassou, des sapeurs-pompiers de l'Isère.
On a un feu qui est situé dans des barres rocheuses, qui est très sensible donc aux conditions météo et aux conditions notamment de température. Et donc il se trouve qu'hier après-midi, en fin d'après-midi notamment, la température était élevée, le vent s'est relevé et donc ça a réactivé quelques brûlots qui ont entraîné donc une propagation assez importante vers les barres du haut. On a une ferme qui est en dessous du dispositif qui est le long de la départementale. On a deux bâtiments industriels, donc on a même actuellement encore un groupe qui est en protection de cette sectorisation. Aujourd'hui, on a réussi à préserver quand même une partie du flanc de la montagne. La guerre n'est pas encore gagnée. Une partie du feu, de toute façon, s'éteindra de lui-même. On va être mobilisé pendant une semaine, voire 10 jours, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, il y a du feu qui brûle en humus, en sous la terre. Donc tant qu'on n'aura pas de bonnes pluies qui tombent sur le secteur, effectivement, on aura toujours de temps en temps des flammes qui ressortent et qui réenflamme certaines parties d'arbustes.
Le colonel Bertrand Cassou au micro de nos confrères de M6. Partout, les pompiers sont sur le qui-vive et pour les aider, de nombreux bénévoles sont aussi sur le terrain, comme ces scouts dans les environs de Marseille. Depuis un mois, 170 adolescents en short ont installé leur tente au milieu du parc des Calanques. Prévention auprès des touristes et détection des départs de feu. 5 ont été éteints grâce à eux. Nicolas est le chef de la coordination du camp scout de Lumigny.
Ça reste dans l'ADN du scoutisme, puisque c'est un service aussi qu'on donne aux habitants, etc. Mais on a le défi en fait de faire en sorte que des jeunes qui ont entre 14 et 20 ans puissent participer à ce genre d'émissions qui sont habituellement confiées à des adultes. Et effectivement, il y a une formation qui est donnée, pour moi comme pour les jeunes, où on vient avec les cartes, on vient avec les radios, on leur montre le différent protocole à avoir quand on discute dans une radio pour que ce soit clair et précis et qu'on ne perd pas de temps à chaque conversation. Bah, leur état d'esprit, il est juste remarquable en fait. On voit qu'une fois qu'ils sont dans leur mission, ils sont dans leur mission et ils l'accomplissent jusqu'au bout.
Et ils y vont avec le sourire ?
Évidemment, toujours.
Écoute, toujours prêt comme Gabriel Baldi, correspondant RTL à Marseille, qui a recueilli ses propos. Les flammes attisées par la chaleur, une quatrième vague est en approche. Par la sécheresse aussi, elle est historique. Et alors que plus de 100 communes sont privées d'eau potable, ce chiffre, 1 litre d'eau sur 5 se perd dans la nature à cause de tuyaux parfois vétustes. Face à ce gaspillage, que peut-on faire ? Quelle solution ? Mathilde Pires a posé la question à Tristan Mathieu, c'est le directeur général de la Fédération des professionnels de l'eau.
Il ne faut pas imaginer qu'on puisse avoir zéro perte en eau en France, parce qu'avec 1 million de kilomètres de canalisation, ce n'est pas possible. Il y a toujours des fuites et comme l'eau est sous pression, on va perdre un peu d'eau. Par contre, il y a des réseaux qui perdent 40% de leur eau, d'autres parfois plus. Il y a un effort collectif à faire, l'effort du consommateur d'eau. Et puis après, il y a un effort à faire au niveau des collectivités locales et de leurs opérateurs pour moins prélever sur la ressource. Le taux de renouvellement des canalisations n'est que de 0,7% en France, ce qui est notoirement insuffisant, donc il va falloir réinvestir dans les réseaux, il va falloir mettre de la technologie, et puis aussi peut-être interconnecter les réseaux entre eux pour faire en sorte que les Français passent les prochains étés tranquillement.
Tristan Mathieu, directeur général de la Fédération des professionnels de l'eau. Comment lutter contre ce gaspillage? Nous poserons la question à 18h15. Nous serons avec la directrice générale du Centre d'information sur l'eau. Elle sera l'invitée de RTL Soir. Autre conséquence de la sécheresse, ces plages qui abandonnent les douches, bien pratiques, hein, pour enlever le sable de vos pieds, mais gourmandes, trop gourmandes en eau. Plusieurs stations balnéaires y renoncent, comme à Le Frincouc dans le Nord, où vous vous trouvez pour RTL, Antoine de Carne.
Oui, et quand sur la digue je m'approche de la douche de plage,
si on essaye là, il n'y a plus rien.
Ça marche plus.
Depuis ce week-end, toutes les douches de cette ville ont été coupées par le maire de Le Frincouc, Olivier Riquebuche. Il ne pouvait pas faire autrement face à la sécheresse.
Même le Nord aujourd'hui est impacté, c'est une première. On a 3 douches sur 600 mètres de plage, donc ça représente environ 70 mètres cubes par an. Les gens ne font pas forcément attention au débit. C'est un luxe d'avoir mis des douches à la plage, moi j'y suis pas forcément favorable. Je pense même qu'on ne va plus les remettre en eau tout simplement, c'est un geste éco-responsable.
Et sur la digue ce matin, certains ont été un peu surpris. Noé avait les pieds ensablés.
C'est chiant, sans eau comme ça c'est une galère.
Sécheresse ou pas sécheresse, il faut de l'eau.
S'il n'y a pas d'eau, dans des endroits comme la plage, pour se laver, clairement. Des fois, t'es obligé de l'avoir.
Mais c'est une réaction un peu isolée, il faut le dire, car ici, on a bien compris l'urgence.
On sort de la mer, est-ce qu'on a besoin tout de suite de faire couler plein d'eau comme ça, non?
Il faut laisser l'eau aux agriculteurs, aux choses primordiales. Là, la mer, on a du sable, on se rince à la maison, quoi. On prend une bonne douche et puis c'est tout. Hein.
Et la mesure est reprise sur tout le littoral nordiste, à 800 Dunkerque ou encore Bredune, alors que le territoire est en crise sécheresse depuis une semaine maintenant.
Et au bord de la Méditerranée, l'emblématique Grande Motte renonce également aux douches de plage. Le maire sera avec nous dans RTL Soir.
RTL Midi avec Antoine Cavallero.
À l'étranger, l'escalade tant redoutée au Proche-Orient, Israël poursuit ses bombardements. Le bilan ne cesse de grimper, au moins 31 Palestiniens tués, dont 6 enfants. Le groupe visé par l'armée israélienne, le djihad islamique, réplique des tirs de roquettes ce matin. Ils ont même visé Jérusalem. On retrouve sur place Stéphane Amar, le correspondant de RTL. Bonjour.
Bonjour.
Les sirènes ont donc retenti dans les environs de Jérusalem, ce qui est très rare.
Oui, effectivement, cela arrive très rarement car Jérusalem est située à plus de 70 km de la bande de Gaza et qui plus est à 700 mètres d'altitude. Ces tirs de roquettes qui ont été interceptés par le système antimissile israélien montrent donc que le djihad islamique a retrouvé toutes ses capacités offensives depuis les affrontements de mai 2021. Ces tirs, vous l'imaginez, sont pris très au sérieux ici car Jérusalem est un symbole très fort. C'est la capitale d'Israël, même si très peu de pays la reconnaissent à travers le monde, à part les États-Unis. Mais c'est aussi une ville disputée au cœur du conflit israélo-palestinien. D'ailleurs, ce matin, le chef de l'extrême droite israélienne, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem pour encourager l'armée à frapper encore plus fort à Gaza. Si nous reculons, ils continueront, a-t-il dit. L'armée poursuit ses opérations, mais elle laisse entendre désormais qu'elle pourrait se terminer plus tôt que prévu, car la plupart des objectifs auraient été atteints. L'Égypte a proposé une médiation entre les deux belligérants afin de mettre fin à l'escalade.
Stéphane Amar, correspondant de RTL à Jérusalem. Le football, la première journée de Ligue 1, ça continue à 13h, Toulouse-Nice. Nous sommes au stade dans un peu plus d'un quart d'heure avec Patrick Hisson aux commentaires. Et puis à 15h, toujours à suivre sur RTL, Lille-Auxerre, ce sera avec vous Samuel Duhamel. Lille en quête de renouveau et le bonheur de retrouver la JA en Ligue 1, club mythique.
Oui, cela fait 10 ans que les supporters de la Géosserre attendent ce moment, pouvoir revoir enfin leur équipe en Ligue 1. Il faut remonter à mai 2012 pour trouver trace d'un match des Bourguignons dans l'élite. C'était face à Montpellier, futur champion de France, une autre époque. Pourtant, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur auxerrois, veut tempérer les ardeurs en ce début de saison. Pas franchement ravi par la tournure du mercato.
C'est un peu compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que on a beaucoup de recrues qui sont arrivées au dernier moment. Quand tu veux monter une équipe efficace, il faut que les joueurs se connaissent très bien.
Côté Lillois, l'optimisme est de mise. Nouvel entraîneur, exit Jocelyn Gourvennec, remplacé par le portugais Paulo Fonseca. Nouvelle tactique, nouveaux joueurs avec notamment l'expérimenté Rémi Cabella et le prometteur Mohamed Bayo, auteur de 14 buts l'an dernier avec Clermont. Olivier Létang, le président nordiste, est confiant dans sa nouvelle équipe.
Aujourd'hui, j'aime bien la façon dont on a avancé parce qu'on a coché un certain nombre de cases entre jeunesse, expérience, maturité par rapport à ce qu'on avait, avec un état d'esprit qui est encore une fois très bon.
Les Lillois seront quand même sur leur garde. La saison dernière, pour leur premier match à domicile, ils s'étaient inclinés 4-0.
Samuel Duhamel, on vous retrouve dès 15h sur RTL. Je vous donne les autres affiches du multiplex Lens-Brest. Montpellier qui reçoit 3, Angers face à Nantes. Et à 17h05, un derby breton Rennes-Lorient. Et puis enfin à 20h45, Marseille déjà secoué par les turbulences. Reims se présente au Vélodrome. Ça va être chaud, ce sera à vivre dans RTL Foot, prise d'antenne à 20h. Une courte pause et dans un instant, les Alpes à l'honneur dans RTL Midi. Vincent Serrano vient de passer une semaine à Tignes. Il était à vos côtés en vacances, il nous raconte ses aventures. Et puis juste après, chemin d'écrivain, Bernard Lehu randonne avec Jean-Christophe Ruffin. A tout de suite sur RTL.
Antoine Cavallero, RTL Midi. RTL Midi, Antoine Cavallero.
Midi 45 sur RTL, ça devient une tradition tous les dimanches dans RTL Midi. On reçoit notre reporter de la semaine. Vous le savez, cet été, nos journalistes sont à vos côtés en vacances. Et j'accueille donc Vincent Serrano. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour à tous.
Vous avez choisi les Alpes, Tignes à 2100 mètres d'altitude tout de même. Les vacances à la montagne, c'est forcément beaucoup de rando.
Ah oui, c'est un passage obligé. La première chose à laquelle vous pensez quand vous allez à la montagne, et d'ailleurs, ça fait peur à certains. Ça fait peur à certains vacanciers, c'est de se dire, mais oui, la première chose à faire, c'est la randonnée, parce que quand vous voyez le paysage qui est en face de vous, spécialement à Tignes, où vous êtes vraiment entouré par une chaîne de montagnes qui est monstrueuse, monstrueusement belle, avec en face le glacier de la Grande Motte qui a plus de 3500 mètres, mais vous vous dites que là, il faut lasser les chaussures, il faut mettre un short, il faut prendre un sac, il faut prendre une gourde, il faut y aller quoi.
Oui, vous avez fait plein d'autres activités, de la pêche, de la rando à cheval aussi.
Oh, il y a plein de choses à dire et à redire sur ce que j'ai fait pendant une semaine, parce que depuis à peu près 10 ans, on va dire, les grosses stations alpines comme Tignes ou Val d'Isère, qui est juste derrière, de l'autre côté du versant, font en sorte de proposer aux vacanciers beaucoup d'activités. Parce qu'ils savent très bien qu'avec les températures qui augmentent comme ça, ces canicules à répétition, les Français, les Franciliens, les gens même du Sud, j'ai croisé des gens du Var, des Marseillais, qui viennent spécialement dans les Alpes pour retrouver un peu de fraîcheur, il faut proposer à tous ces gens des activités. Donc évidemment, il y a la randonnée, il y a du vélo de descente, il y a un centre équestre, il y a un lac, le lac de Tignes, qui est magnifique, où on peut faire, j'ai envie de dire, un peu du plongeon acrobatique, ce que j'ai pu faire en début de semaine, et puis du canoë, du kayak, et puis la pêche. Il y a vraiment énormément de pêcheurs, puisque à partir de 18h et cette semaine, alors que beaucoup de monde crevait de chaud, il faut le dire, parce que c'est le terme, à cause des températures, nous, il y avait 18 degrés, 20 degrés le soir, parfait pour pêcher. Bon, j'ai pas pêché un seul poisson, mais bon, c'était plaisant quand même.
Et vous avez aussi fait du parapente. Je vous le dis tout de suite, c'était l'un de mes moments préférés. On va réécouter justement quand vous étiez tout là-haut.
Il y a les monts qui sont encore enneigés à cette période de l'année.
C'est le Mont Blanc.
C'est le Mont Blanc, ça ?
Alors, on a le Mont Blanc, juste c'est tout le massif du Mont Blanc, et devant, on a le massif du Beaufortin.
Alors, si tu peux juste garder tes deux mains sur les câbles, parce qu'à chaque fois que tu montes quelque chose, tu lèves le doigt.
Alors, regarde, ça vole tout seul, c'est une promenade.
C'était un super moyen de découvrir la montagne, Vincent.
Oui, il y a énormément de vacanciers, beaucoup plus que je le pensais, qui utilisent ce moyen-là, le parapente, pour le découvrir, parce que du côté d'Annecy, par exemple, qui est considéré comme l'autoroute du parapente, il y a quasiment 1000 vols de parapente par jour. Vous vous rendez compte, c'est énorme.
Assez impressionnant. Bon, après, c'est vrai qu'il faut le dire aussi, au cours de vos balades, vous avez pu le constater, malheureusement, les glaciers fondent à vue d'œil. Ça, vous avez pu vous en rendre compte, ouais.
Tout le monde s'en rend compte, c'est évident, parce que quand vous arrivez, vous dites que c'est magnifique, vous en discutez avec les locaux, vous habitez dans un endroit qui est magnifique. Mais tout de suite après, on vous dit, levez les yeux au ciel, regardez le glacier là-bas au fond, ils font à vue d'œil. Et ça, on le voit évidemment. La première chose que j'ai faite, évidemment, donc vous le disiez, c'est de partir en randonnée. On est arrivé à 3500 mètres et on m'a montré des photos en 2020, en 2015, en 2010. C'est le glacier aujourd'hui est méconnaissable pour quelqu'un qui l'a vu il y a 10-20 ans. Et c'est comme ça, pour tous les glaciers des Alpes.
Et les touristes aussi s'en rendent compte, quand vous avez visité le barrage de Tignes. Philippe a réalisé à quel point l'eau était une ressource précieuse. On l'écoute.
Avec la modernité, le modernisme ambiant, on ne peut que d'avoir de la consommation d'énergie de plus en plus importante, ne serait-ce que recharger son portable, envisager un jour d'avoir des voitures qui fonctionnent à l'électricité, mais je pense qu'on aura du mal à atteindre du 100% électrique si le climat continue d'évoluer, si on voit la fonte des glaces, puis la raréfaction des pluies.
Les vacances à la montagne, c'est aussi ça, hein, c'est se rendre compte de la fragilité de notre monde. Vous nous l'avez très bien expliqué, Vincent. Bon, et forcément, les vacances, les voyages, ça passe aussi par l'assiette. J'imagine que les pique-niques étaient
surtout par l'assiette.
Frugaux en rando. Heureusement que vous êtes rattrapé avec le fromage, le persillé de Tignes. Et comme vous êtes quelqu'un de simple, vous avez rencontré un chef étoilé qui vous a mitonné un bon petit plat. Il s'appelle Clément Bouvier.
La meilleure des recettes, on est en train de la faire avec votre collègue, c'est d'avoir des petites pommes de terre vapeur chaudes avec un petit peu de salade.
Voilà, mais là, on a tout. On a un petit peu de charcuterie, on a justement de l'assaisonnement. Je peux vous dire
que l'assaisonnement, du coup, c'est le miel d'anémone.
Oh là là, donc on est 100% local, là.
Bon, un petit plat local, une petite recette bière des Alpes. Vous vous êtes régalé ?
Vous êtes en train de me faire culpabiliser, Antoine, mais moi, c'est la première chose à laquelle je pense quand je pars en voyage. C'est évidemment qu'est-ce qu'on va manger sur place. Non, non, c'était magnifique. Évidemment, le fromage, on avait le Beaufort qui venait d'un peu plus haut, mais on a décidé, nous aussi, RTL a décidé de manger local et puis se persiller de Tignes qui était vraiment magnifique. Et j'en profite encore pour saluer évidemment le chef Bouvier et puis Anémone qui nous ont accueillis vraiment avec une gentillesse incroyable.
Merci Vincent Serrano, reporter RTL. Vous venez de passer une semaine à Tignes. Merci de nous avoir fait découvrir cette magnifique région. Dans un instant, on reste en altitude, on reste dans les Alpes. Jean-Christophe Ruffin nous attend. Il nous emmène en balade, direction la mer de glace dans le massif du Mont-Blanc, sur ses chemins d'écrivain, pour l'accompagner forcément notre monsieur littérature Bernard Lehu. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi, Antoine Cavallero.
Midi 52 sur RTL, l'heure d'emprunter nos chemins d'écrivain ce dimanche. On prend de la hauteur.
Chemin d'écrivain, Bernard Lehu.
Bonjour et bon dimanche. Tous ces lecteurs ne le savent peut-être pas, mais Jean-Christophe Ruffin, pourtant originaire d'un pays plutôt plat, le Berry, est un passionné de montagne et d'alpinisme. Pour la première fois, il en a fait le thème et le théâtre d'un de ses romans, Les Flammes de Pierre. L'académicien renoue ainsi avec la grande tradition de la littérature de montagne, dont Roger Frison-Roche, l'auteur de Premier de Cordée, fut en son temps l'un des maîtres. Et Jean-Christophe Ruffin le fait en l'enrichissant d'une folle histoire d'amour entre Rémi, un guide de Chamonix, playboy des cimes, et Laure, financière parisienne, en apparence froide comme un bilan comptable. Leur rencontre les transformera à jamais, bouleversera leur vie. Eh bien, c'est dans le décor grandiose de son livre, le massif du Mont-Blanc et la mer de glace, que Jean-Christophe Ruffin vous invite à le rejoindre. Première étape, chez lui, dans le chalet de Saint-Nicolas-de-Véros, près de Saint-Gervais, où il passe aujourd'hui l'essentiel de son temps et où il a écrit « Les Flammes de Pierre ».
Bienvenue à Saint-Nicolas-de-Véros. Par un très très beau temps, vous avez de la chance.
Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce chalet bénéficie d'un emplacement, d'une localisation assez exceptionnelle.
Évidemment, on est face au massif du Mont-Blanc. On est beaucoup plus près, beaucoup plus haut d'ailleurs que Chamonix, c'est-à-dire qu'on a les glaciers tout près, quoi. On est vraiment en haute montagne, souvent.
Ah ben on est vraiment au pied, enfin, on a l'impression de se les prendre en pleine face, quoi. C'est très, très impressionnant.
Ouais. Et c'est la caractéristique de cette vallée.
Et donc, vous écrivez face à ce paysage. Votre bureau se trouve où exactement ? À l'étage ?
Faites attention parce que...
Ah, c'est un peu raide.
Pas toujours des survivants. C'est un peu la descente. Voilà, c'était le bureau de mon grand-père médecin.
Et à Bourges ?
À Bourges, oui. J'ai toujours connu ce bureau, je continue d'écrire dessus. Voilà. C'est bien d'écrire sur quelque chose qui a une histoire aussi. Moi, je suis pas capable d'écrire dans un café ou je sais pas où, n'importe où comme ça.
Jean-Christophe Ruffin, alors nous allons quitter votre chalet au pied du Mont Blanc. Et puis en bas, on prend le
petit train du Montanvert, ouais.
Qui nous amène vers la mer de glace.
Exactement. Ouais, rouge, c'est des trains à crémaillère, c'est-à-dire qu'il y a une roue centrale qui permet de monter des pentes très raides. Je m'installe. Ah, voilà, le train se met en route. Voilà. C'est pas le TGV, hein, mais c'est ça le bonheur de ce train. Voilà, ça c'est le passage à niveau. Voilà, on traverse... un petit peu Chamonix et puis ensuite on va monter. Ce train, quand il a été construit au début du XXe siècle, il a en fait supplanté les ânes parce qu'on montait normalement là-haut à dos d'âne.
donc, qui est un enfant du Berry. Racontez-nous la première fois où vous avez vu la montagne.
En fait, la première rencontre, c'était quand je suis allé habiter en Suisse pendant un an avec ma mère. Et mon premier rapport avec la montagne, c'est la peur. Très curieux. Et c'était plutôt une montagne effrayante. Et au fond, j'y ai trouvé du plaisir que quand j'ai appris à la dominer, d'une certaine façon. Enfin, je ne la domine pas, personne ne la domine. Mais disons, à y survivre. Je pense que une des sources du plaisir, c'est effectivement le fait de se confronter à un fantasme, de se confronter à une peur, et puis de la dépasser. Et là, effectivement, s'ouvre un nouvel espace, qui est un espace de jouissance, en fait, hein, de ce qui vous a fait peur. Et la peur, justement, vient renforcer... Parce qu'elle est toujours là, hein, elle est toujours là quand même. Mais pas tout le temps, et dans certaines circonstances. Et surtout, tout est fait pour la contenir. Mais en même temps, sa puissance est là. La lyrique, probablement, tout, y compris le plaisir que j'en tire.
Alors là, je n'irai pas jusqu'à dire que l'on fait de l'escalade, mais vous m'emmenez sur un sentier bien escarpé. Où allons-nous ?
Comme vous voyez que la mer de glace, elle a beaucoup, beaucoup baissé. Évidemment, on ne peut pas l'atteindre de plein pied comme on faisait jadis. On passe par des échelles. C'est-à-dire que la moraine, les parois, si vous voulez, de ce qu'était le canal de la mer de glace avant, sont équipés d'échelles verticales. Et le départ des courses, justement, se fait là-bas. Donc il y a une petite sorte de... un lieu assez émouvant, enfin, je trouve assez émouvant, parce que c'est de là que tout part, et c'est par là qu'on rentre. Et là, on passe vraiment d'un univers à l'autre, c'est-à-dire de celui tranquille
des touristes.
Des touristes qu'on vient de voir et que nous sommes aujourd'hui.
Que je suis, pas vous.
Et on passe à autre chose, qui est le domaine de la haute montagne. Et on le sent matériellement. On arrive dans un endroit dans lequel on ne peut pas pénétrer si on n'a pas un minimum de connaissances et d'équipements. C'est une sorte de frontière.
Voilà, c'est ces échelles. Donc c'est ici que tout commence pour les alpinistes comme vous.
Voilà, c'est la partie qui me plaît le plus, parce que c'est l'aventure justement, et parce que c'est peut-être un des derniers domaines, peut-être avec la voile, mais un des derniers domaines dans lequel la société tolère, pour combien de temps, j'en sais rien, que des gens puissent se mettre, non pas en danger, mais à l'épreuve du risque. Voilà. Et en liberté. Et ça, c'est fragile. Je ne sais pas combien de temps ça durera.
Quand vous êtes ici, devant ce paysage absolument grandiose, au bord de cette mer de glace, à quoi êtes-vous le plus sensible ?
Le fait que ça soit là, et je dirais même que ça soit encore là. Parce que peut-être par rapport à d'autres générations, nous sommes plus conscients que les autres de la fragilité de tout ça. Moi, depuis que j'habite ici, j'ai vu les glaciers fondre devant chez moi. La mer de glace, n'en parlons pas. Donc, je suis sensible à l'idée que tout ça existe encore. Et que, évidemment, il faut le préserver. Mais aussi que j'ai une chance énorme de pouvoir le vivre, quoi, y vivre.
C'était Le chemin d'écrivain alpin de Jean-Christophe Ruffin. Son livre, Les flammes de pierre, qui a pour cadre donc le massif du Mont-Blanc, est publié chez Gallimard. Les chemins d'écrivains sont à retrouver, vous le savez, sur l'appli RTL. Dimanche prochain, nous rejoindrons la chanteuse et romancière Olivia Ruiz dans son village de l'Aude, Marseillette, c'est près de Narbonne. Dans un instant, le retour de l'information. Je vous souhaite un bel après-midi sur RTL.
Bonne journée avec RTL.
RTL, revivre ensemble.
RTL, il est 13h. Principales informations à retenir, l'émotion, la colère à Pontoise, ce drame après un rodéo urbain. Deux enfants grièvement blessés vendredi soir, la fillette 7 ans, elle est entre la vie et la mort. Au Proche-Orient, l'escalade de la violence, au moins 31 morts côté palestinien, des tirs de roquettes ont visé Jérusalem, ce qui est très rare. Le football, la première journée de Ligue 1, Patrick Hisson au Stadium pour RTL, le match de 13h qui va commencer, ça y est, le coup d'envoi. d'envoi, je l'entends, vient d'être donné entre Toulouse et Nice, le retour du TFC en Ligue 1.
Exactement, c'est même parti depuis 30 secondes maintenant avec le promu toulousain qui débute ce championnat avec quasiment la même équipe qu'il avait l'an dernier en Ligue 2, avec une seule recrue titulaire, c'est l'attaquant Dalinga, alors que les arrivées niçoises de la semaine sont dans le groupe, mais seul BKBK débute cette rencontre, le tout sous le soleil, sous la chaleur même, déjà 32 degrés au Stadium de Toulouse, et ça va grimper encore cet après-midi en présence de 20 000 spectateurs. Une minute de jeu et toujours bien sûr 0-0.
Patrick Hisson en direct du Stadium pour RTL. On vous en parlait ce matin en quête RTL sur le grand retour des festivals en France. Et à Lorient, c'est parti pour une semaine de festival interceltique. C'est la grande parade. C'était la grande parade ce matin. On y retrouve Christian Panvert. Bonjour.
Bonjour à tous.
On joue du biniou. Vous voyez des bigoudens ?
Ah oui, je peux vous dire qu'on joue du biniou, et d'ailleurs on joue très bien du biniou, et on voit des bigoudens aussi. C'est un spectacle remarquable, des dizaines de milliers de personnes sont massées de chaque côté de la rue Chazelle, c'est l'un des artères principaux de Lorient. Une centaine de bagades défilent les uns après les autres, avec en vedette le fameux bagade de Lambiway. Je suis à côté d'Arlette qui ne voulait, comme nous, pas manquer ça.
Ah, c'est tout à fait magnifique, ça fait 40 ans que je ne suis pas venue à Lorient. Et je suis de la région et croyez-moi que je suis vraiment très très émue de revenir au pays et de voir ce spectacle magnifique, très émouvant, vraiment.
Vous avez les larmes aux yeux en voyant passer le fameux bagade de Lambiway.
Mon enfance, j'ai fait mes études à Lorient, je suis partie en région parisienne. Je comprends maintenant pourquoi ma mère aimait tant les belles choses quand j'ai vu les super, les magnifiques costumes, tout en dentelle, et vraiment magnifique, vraiment c'est super.
La journée se terminera par un fest-noz, comme tous les soirs, salle Carnot. En revanche, en raison de la sécheresse, il n'y aura pas ce soir de feu d'artifice.
Oui, et mollo hein, sur les Queen Yaman, paraît que c'est pas très très bon pour les hanches. Merci infiniment Christian Panvert. Je vous donne les pronostics pour les courses à Deauville. Le départ c'est 15h15. Voici les pronostics. Le 9, le 14, le 4, le 5, le 13, le 3, le 16, le 6. La dernière minute c'est le 4. Sky Power, RTL. Il est 13h et bientôt 3 minutes tout de suite. Les voix du crime, c'est avec Alice Moreno qui revient sur l'affaire du Grélé. Très bon après-midi sur RTL.